Albert Robida. En haut du beffroi. Chapitre 1er. Gurdebec oncle et Gurdebec neveu. Le plus haut fonctionnaire de la ville de Flissemug en Brabant, c'était, on peut le dire, le père Gudebec, guetteur du beffroi de la maison de ville, en même temps que directeur du carillon de l'église Saint-Éloi et chef de la musique municipale flissemugoise. Et pourtant, homme d'un tempérament vraiment modeste, le père Gurdebec, du haut de l'envisageable position qu'il devait à ses seuls mérites, ne songeait nullement à écraser personne de son importance. On peut, à première vue, se demander comment il pouvait cumuler ces trois considérables fonctions en apparence difficiles à faire, marcher de front. Comment il pouvait en même temps veiller aux incendies du haut du beffroi municipal, diriger la musique flissemugoise et faire marcher le carillon de l'église Saint-Éloi, qui sonne toutes les heures sur l'air de « C'est le roi d'Agobert » et annoncer les demi-heures avec les notes de « J'ai du bon tabac dans ma tabatière », sans compter bien d'autres morceaux pour le dimanche et les jours de grandes fêtes. L'explication de ce problème est fort simple. L'église Saint-Éloi se relie à l'édifice municipal par une haute arcade qui fait du clocher de l'église et du beffroi de la ville deux frères jumeaux. Sans trop s'éloigner de son perchoir de guetteur, le père Gudebec n'a qu'à passer par la galerie aérienne surmontant l'arcade pour s'en aller chaque matin et chaque soir donner le ton à son carillon. Quant à ses occupations de chef de la musique municipale, c'est encore moins compliqué, attendu que les musiciens flissemugois n'ont besoin que d'un remontage quotidien pour se trouver aptes à jouer convenablement de leurs instruments pendant 24 heures. Bien entendu, quand nous disons « musiciens flissemugois », nous voulons parler des quatre bonshommes habillés à la mode du XVIe siècle qui jouent du tambourin dans une grande niche ouverte au dernier étage du beffroi. D'ailleurs, on ne peut confondre, il n'y a, ou plutôt, il n'y avait guère, à cette heureuse époque, c'est-à-dire vers 1825, d'autres musiciens flissemug, à part deux ou trois dames qui jouaient de la harpe à certains jours dans leur salon en chantant des romans chevaleresques. Oh, depuis tout a bien changé, et les pianos que l'on rencontre jusque dans les campements canaques des îles océaniennes ont envahi Flissemugueux comme le reste du globe. En 1825, les quatre musiciens flissemugois, ayant reçu le matin un bon tour de clé par les soins du père Gurdebec, donnait le signal au carillon de Saint-Éloi en décochant à chaque heure, avec ensemble, quatre vigoureux coups de marteau sur leur tambour de fer. Ding, 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 frappé une fois au quart, deux fois à la demi, trois fois au trois quarts et quatre fois à l'heure. Ding, 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 ding. Et aussitôt le carillon de Saint-Éloi égrenait joyeusement dans l'atmosphère des notes claires et argentines. C'est le roi d'Agobert qui met son pourpoint à l'envers. Vous n'imaginez pas comme ces coups de marteau et ce carillon donnaient de la vie à Flissemigueux. Le ciel chantait, c'était comme de l'allégresse qui tombait sur les toits toutes les 30 minutes. Nous avons négligé de dire qu'en outre de ces trois dignités principales, le père Gardebec était encore gardien des archives de la ville, ce qui ne fatiguait pas non plus énormément cet homme si occupé, puisque ses devoirs de gardien consistaient à faire cuire 2 sous de mou par jour pour le chat de l'hôtel de ville, et à tenir accroché à un clou dans sa logette la clé de la salle des archives. Le père Gourdebec cumulait toutes ses fonctions depuis 48 ans, à l'entière satisfaction de tous, et on le croyait à peu près éternel, comme les 4 musiciens de bois sculptés dont il était le chef d'orchestre, lorsque, vers 1825, tout à coup, il fallut bien s'apercevoir qu'il vieillissait et que ses facultés jadis si brillantes commençaient à baisser. Le guetteur du beffroi se voyait obligé, pour veiller aux incendies, de se mettre sur le nez une double paire de lunettes. Le carillonneur de Saint-Éloi se trompait et faisait pleuvoir des fausses notes sur la ville. Enfin, le chef d'orchestre aux 4 musiciens de bois faisait parfois, par un tour de clé de trop, sonner 5 ou 6 quarts au lieu d'une demi. Jamais précédemment cela n'était arrivé. Ces graves perturbations, troublant les gens de la ville, causèrent du souci aux magistrats. Évidemment, le temps approchait où il serait nécessaire de prendre un grand parti pour apporter un remède à la situation. Le conseil des échevins en délibéra longuement, hésita, ne put rien décider et se contenta de faire quelques observations au père Gourdebec. Les perturbations s'aggravèrent. Il arriva que le beffroi sonnait parfois des heures invraisemblables et que le carillon de Saint-Éloi, détraqué, jouait des airs remplis de modulations extraordinaires dans lesquelles, de nos jours, on eût peut-être découvert des transpositions du banal roi d'Agobert en savante musique wagnérienne. À cette époque bienheureuse où les oreilles avaient des goûts simples, on trouva ces variations tout à fait déplorables et impossibles à supporter. Les échevins redélibérèrent et enfin, poussés par l'opinion publique, décidèrent d'admettre le père Gudebec à faire valoir ses droits à la retraite. Tout finit hélas en ce monde. Et le jour vint où le père Gourdebec, après avoir embrassé ses 4 musiciens et contemplé une dernière fois du haut de son beffroi les vastes horizons familiers, dut quitter ses fonctions et l'édifice municipal. Il ne manquait pas d'aspirants à sa succession, de candidats fortement recommandés pour ses places et fonctions. Mais le père Gourdebec eut la satisfaction devoir préférer à tous, malgré références, recommandations et intrigues, son propre neveu, Narcisse Gourdebec, fils de son frère et brave garçon, malgré quelques petits défauts. Il fallait, pour bien remplir les fonctions multiples que nous venons de détailler, un homme presque universel, à la fois horloger, musicien, mécanicien, etc. Ce fut un pêcheur à la ligne qui l'emporta. C'est souvent comme cela en ce monde, et le monde, après tout, n'en va ni plus bien ni plus mal. On pourrait espérer qu'il en serait de même à Frisingbige. Dans tous les cas, cette obligation tombait à merveille pour Gourdebec neveu. Nous avons dit que c'était un brave garçon, néanmoins, il avait un défaut, il aimait un peu trop le fardeau et les longues stations au cabaret, ce qui troublait son ménage et nuisait à son avancement dans le monde. La seule excuse qu'il put invoquer, c'est qu'il y avait trop d'estaminets à Flissemugueux, trop d'enseignes de lions rouges, de lions d'argent, de lions de Flandre, de 2 écus, de plat d'Elvin ou de croix blanche. Ces enseignes alléchantes lui donnaient des titillements dans le gosier. Il avait beau essayer de résister, il lui fallait toujours succomber. Là-haut, au sommet du beffroi, à 80 mètres au-dessus des estaminets, pas de lion de n'importe quelle couleur, pas d'enseigne, et partant pas de tentation. Un gros souci de moins pour madame Gurdebeck. Et Gurdebeck, neveu, était tout le premier à déplorer sa faiblesse et à convenir des avantages particuliers d'une résidence à tant de pieds au-dessus du sol.